Merci d'écouter RFI. Il est 8h à Washington, 13h en temps universel.
RFI Midi. Anne Contner.
RFI Midi, dernière partie au sommaire. Cuba, vous entendrez dans quelques minutes l'opposant José Daniel Ferrer, libéré hier après 2 ans et demi de détention. On s'interrogera aussi sur l'avenir des relations entre les États-Unis de Donald Trump et plusieurs de leurs voisins, le Venezuela et le Mexique. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure des habitants de l'île Saint-Martin appelés à marcher pendant le week-end pour dire non à la violence.
Oui, 3 morts par arme à feu depuis le début de l'année. Inquiet, le président de la collectivité de Saint-Martin appelle la population à descendre demain dans la rue.
À tout à l'heure. Mais d'abord, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Avec vous, Marion Cazanov, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et on commence par cette visite éclair. 12h, Emmanuel Macron est au Liban et c'est une première depuis 2020.
Le président français a rencontré son homologue Joseph Aoun, élu la semaine dernière à un poste qui était vacant depuis 2 ans. Le pays semble donc sortir peu à peu du blocage politique. Emmanuel Macron a exprimé son soutien au nouveau dirigeant libanais.
Monsieur le Président, en vous portant à la tête de la présidence de la République le 9 janvier dernier, avec une très large majorité, les députés libanais ont mis fin à plus de 2 ans de vacances à la tête de l'État. Et en désignant, là aussi largement, le 13 janvier, un nouveau président du Conseil des ministres, M. Nawaz Salam, ils ont confirmé cette demande de changement et le Liban résolument sur la voie du redressement. Et depuis le 9 janvier dernier, au plein milieu de l'hiver, le printemps est apparu. Alors, Monsieur le Président, la France qui a été aux côtés du Liban chéri pendant ces années si difficiles, où il y avait peu de fleurs, s'engagera encore davantage à vos côtés, aux côtés des Libanaises et des Libanais, pour vous aider à réussir sur ce chemin.
Emmanuel Macron à Beyrouth qui annonce également une nouvelle conférence internationale à Paris pour la reconstruction du Liban.
Avant cette conférence de presse, le président français a aussi annoncé la libération à venir de 2 otages franco-israéliens.
2 pères de famille, Ofer Calderon et Ohadia Alomi, enlevés au kibboutz de Nir Oz le 7 octobre 2023 et retenus à Gaza depuis 15 mois. Ils figurent dans la liste des 33 noms du Hamas et devraient faire partie des premiers libérés. Les premières libérations devraient d'ailleurs avoir lieu dimanche. Selon le cabinet de Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien. Et c'est dimanche, après-demain également, qu'est censé entrer en vigueur le cessez-le-feu à Gaza en vertu de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. À 3 jours maintenant du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'Iran et la Russie s'apprêtent à signer un nouveau pacte de pays soumis à de lourdes sanctions internationales. Ce pacte constituera une fondation solide dans l'alliance entre les deux pays, selon le dirigeant iranien, un élan supplémentaire aux relations bilatérales, renchérit le président russe.
La Russie, où 3 avocats de l'opposant Alexei Navalny ont été condamnés à de la prison ferme.
Entre 3 ans et demi et 5 ans et demi de prison pour ces avocats accusés d'extrémisme. Ils avaient été arrêtés en octobre 2023, quelques mois avant la mort de l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. À Moscou, Anissa El-Jabri.
La justice russe reproche aux 3 avocats d'avoir transmis à Alexei Navalny, incarcéré en Russie de janvier 2021 jusqu'à sa mort dans des circonstances obscures le 16 février dernier, des informations lui permettant de, je cite, « planifier, préparer et commettre des crimes extrémistes depuis sa cellule ». Le procès s'est tenu à huis clos, mais certains médias indépendants comme Novaya Gazeta ont réussi à en avoir quelques échos. C'est comme cela, et uniquement comme cela, que l'on sait qu'à cette accusation, l'avocat Vadim Kobzev a déclaré devant la cour, nous sommes jugés pour avoir transmis les pensées de Navalny à d'autres personnes. Le charismatique opposant communiquait sur les réseaux sociaux, essentiellement via des messages transmis à ses avocats, messages dans lesquels il dénonçait notamment l'offensive en Ukraine et appelait les Russes à résister. Un des avocats de la défense, Roman Karpinski, a lui expliqué que le dossier était fondé sur des écoutes des réunions en détention d'Alexei Navalny avec ses avocats, soit, selon lui, une violation du secret professionnel par l'administration pénitentiaire, elle avait transmis ses enregistrements aux enquêteurs. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
La veuve d'Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, elle-même opposante politique, appelle à la libération immédiate de ses 3 avocats. L'ONG Amnesty International dénonce une tentative honteuse de réduire au silence ceux qui ont osé défendre Alexei Navalny. La Russie poursuit en attendant son avancée dans l'est de l'Ukraine avec également des bombardements quotidiens. Au moins 4 personnes ont été tuées aujourd'hui aujourd'hui dans une frappe russe à Kryvyi Rih, une ville du centre, à 80 km de la ligne de front. Dans ce contexte, la Lituanie, petit état balte, voisin de la Biélorussie, annonce qu'elle va augmenter son budget de la défense. Il représentera 5 à 6% de son PIB entre 2026 et 2030.
Il est 8h05 à La Havane, à Cuba, où 127 prisonniers politiques ont été remis en liberté.
Notamment l'opposant anticastriste José Daniel Ferrer, emprisonné 3 ans durant. L'Église catholique et la diplomatie vaticane ont été à la manœuvre pour permettre ces libérations. Le Saint-Siège, Éric Sénan, qui est engagé depuis de longues années dans un rapprochement entre Cuba et notamment les États-Unis.
En annonçant la libération des prisonniers politiques le 14 janvier dernier, le ministère cubain des Affaires étrangères a révélé que le pape François avait été personnellement informé de la décision par le président Díaz-Canel. Une manière de mettre en évidence le rôle clé qu'a joué la diplomatie du Saint-Siège. Depuis de nombreuses années, le Vatican est un acteur diplomatique important dans les relations de l'île castriste et de ses adversaires, États-Unis en tête. En décembre 2014, Barack Obama avait annoncé une normalisation des relations diplomatiques entre Washington et La Havane et remercié publiquement le pape François pour son implication. Quelques mois plus tôt, le pontife argentin avait séparément écrit aux présidents américains et cubains pour les exhorter à échanger des prisonniers et à réchauffer leurs relations. Au fil des années, le Saint-Siège a aussi reçu des délégations des deux pays pour des discussions informelles, jouant de sa présence sur l'île via l'annonciature apostolique, mais aussi de l'influence du cardinal Ortega, l'ancien archevêque de La Havane, décédé en 2019. L'Église catholique est donc restée un médiateur de premier ordre. Plusieurs membres importants de la curie ont été diplomates à Cuba par le passé. Ce succès diplomatique du Saint-Siège répond à la volonté du pape François, qui propose pour cette année de grands jubilés de l'Église des formes d'amnistie ou de remise de peine. Éric Sénanque, Rome, RFI.
Et dans quelques minutes, vous pourrez entendre José Daniel Ferrer juste après sa libération hier.
Le réseau social X reste dans le viseur de l'Union européenne. Elle compte approfondir son enquête contre la plateforme, soupçonnée de répandre de fausses informations. Cela intervient après les dernières provocations de son propriétaire, le milliardaire Elon Musk, accusé de manipuler les algorithmes pour soutenir l'extrême droite en Europe. Il a même clairement affiché ces dernières semaines son soutien au parti d'extrême droite allemand, l'AFD.
Et quand il ne commente pas l'actualité sur X, Elon Musk poursuit un bras de fer avec un autre milliardaire.
Un bras de fer dans l'espace, on vous parlait hier du décollage réussi de New Glenn, la fusée de Jeff Bezos, patron d'Amazon, venu concurrencer SpaceX d'Elon Musk. Et bien ce dernier a répliqué avec un nouveau vol d'essai au Texas, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Sa méga fusée Starship, la plus grande jamais construite, s'est désintégrée en vol. Le premier étage a pu être récupéré, mais Anne Verdaguer pour SpaceX, objectif lune, ce n'est pas pour tout de suite.
Ciao, monsieur, monsieur.
Et oui, on entend en effet, Marion, ces habitants de Port-au-Prince qui se demandent si ces boules de feu qu'ils voient dans le ciel ne vont pas leur tomber dessus. Dans leur sillage, plusieurs panaches de fumée, telle une pluie de météores. Sur plusieurs vidéos postées sur le réseau social X, c'est l'incompréhension. Je n'avais jamais vu une chose pareille, dit ce touriste américain en vacances sur les îles Turques et Caïcos, dont la vidéo a été repostée par Elon Musk avec ce commentaire. Le succès est incertain, mais le spectacle est garanti. Un spectacle qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui est la preuve de l'échec de ce vol avec l'explosion du vaisseau Starship quelques minutes seulement après son décollage. Si le premier étage a bien pu être récupéré, vous l'avez dit, l'enjeu de cette mission était le comportement dans l'espace de Starship. Aucun des tests qu'il devait réaliser n'a pu être mené à bien jusqu'à présent. La suite du programme est à présent incertain. Il faudra comprendre les causes de cette explosion, ce qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans un calendrier déjà serré. La NASA compte en effet sur cet engin pour ramener les astronautes vers la Lune, mais Starship n'a toujours pas quitté l'orbite terrestre, ni montré qu'il était capable d'accueillir des astronautes à bord.
Une précision signée Anne Verdaguer. Un succès donc en demi-teinte pour Elon Musk, qui dans 3 jours sera présent à l'investiture de Donald Trump. Soutien du président élu, il a déboursé des dizaines de millions de dollars pour sa campagne. Il est donc invité, bien sûr, tout comme les grands patrons de la tech, notamment son concurrent Jeff Bezos ou encore le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg. Et puis on attendait cette décision. Le cabinet de sécurité israélien donne son feu vert à l'instant à l'accord de trêve avec le Hamas, un accord qui restait fragile. Israël accusait le Hamas ces dernières heures de provoquer une crise de dernière minute en revenant sur des points de cet accord. Accord donc validé par ce cabinet de sécurité israélien.
Merci Marion Kazanov. 14h10 ici à Paris. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et un symbole à Cuba pour commencer, on l'a évoqué dans votre journal. L'opposant José Daniel Ferrer a pu sortir de prison avec plus de 120 personnes. Le régime s'est engagé à en relâcher 500 dans le cadre d'un accord avec les États-Unis qui, en échange, ont retiré le pays de la liste noire des soutiens au terrorisme. José Daniel Ferrer était détenu depuis juillet 2021. Il avait été arrêté alors qu'il souhaitait participer à des manifestations contre le gouvernement. Il est soulagé, mais il précise tout de même que sa libération n'en est pas vraiment une.
En réalité, on ne peut pas appeler ça une libération. Ils m'ont dit que c'était une liberté conditionnelle. Et la liberté conditionnelle, je ne l'accepte pas pour une raison très simple. Je n'ai commis aucun des délits qu'ils ont inventés. Ils m'ont dit que j'allais sortir de prison quoi qu'il arrive et que si je ne me conformais pas aux termes de ma libération, que si je ne m'appliquais pas à mener une vie qui rentre dans les normes de la légalité socialiste, ils allaient de nouveau m'enfermer. En ce moment, ils me disent que je dois obéir à une série de règles, comme me rendre tous les mois dans un tribunal pour déposer ma signature, ce que je ne ferai jamais, ou bien me présenter au tribunal pour qu'il me confie tout travail qu'il juge approprié. Je refuse de travailler pour l'État pour une raison simple. Mon temps, mon espace, je veux uniquement les consacrer à la lutte non violente pour la démocratisation de mon pays.
Réaction de José Daniel Ferrer, opposant cubain, et libéré donc dans le cadre d'un accord avec les États-Unis. Les États-Unis, justement, où petit à petit les pompiers commencent à maîtriser les flammes à Los Angeles. Mais ils prennent aussi la mesure de l'ampleur des dégâts. 27 morts, peut-être plus, car tous les décombres n'ont pas encore été déblayés et fouillés. Des dizaines de milliers de sinistrés, mais aussi la crainte de glissements de terrain dû aux tonnes d'eau déversées pour éteindre les incendies ou encore l'exposition à des produits toxiques, pesticides, essence ou batteries. Il faudra encore une semaine, au moins selon les autorités, avant que les personnes évacuées puissent rentrer chez elles, notamment à Altadena, quartier situé sur les hauteurs de la ville et ravagé par l'incendie. Là-bas, les habitants ne sont pas des stars ou des millionnaires, mais des populations modestes, comptant beaucoup d'immigrés. Et pour ces personnes, refaire leur vie est beaucoup plus compliqué que dans d'autres quartiers à Rimlipold.
Le quartier d'Altadena a des allures de champ de bataille. Un tiers des maisons a été réduit en cendres. Devant les ruines, des carcasses de voitures brûlées témoignent de la violence des flammes. Ces feux ont détruit aussi l'appartement de Selma, afro-américaine.
Quand les incendies ont commencé dans les montagnes, je n'aurais jamais cru qu'ils descendraient aussi vite. On a tout perdu. Mon quartier ressemble à un endroit où une bombe aurait explosé. C'est une tragédie. Des gens sont morts et on ne sait même pas encore combien.
Comme beaucoup d'habitants d'Altadena, Selma a trouvé refuge dans des centres d'hébergement provisoires. Le sien a été mis en place par la Croix-Rouge et accueille actuellement plus de 400 personnes, explique Diana Ramirez, chargée de communication.
Altadena, c'est une communauté très vulnérable. Il y a des Latinos, des Afro-Américains, des Asiatiques, des personnes âgées. Beaucoup ont besoin de soins médicaux. En fait, toutes les personnes qui sont ici n'ont aucun autre endroit où aller. Ici, au moins, elles sont en sécurité. Tout le monde est le bienvenu, quelle que soit sa nationalité ou son statut, légal ou non.
Pour Selma, ce centre est une solution d'urgence. Elle a envie de partir, mais où, elle ne sait pas.
Mon appartement, c'était mon premier chez moi depuis 10 ans, vous savez, après mon divorce. Et en plus, mon assurance habitation a annulé mon contrat il y a 1 an et demi. Ils ont fait ça avec beaucoup de gens ici. C'est bizarre, non ?
Elle conclut, amère.
Nous avons tout perdu. On n'est pas comme ceux qui ont pu se payer une chambre au Hilton. Nous, on est ici, dans cet abri provisoire.
Armipot, Los Angeles, RFI.
Les États-Unis, J-3 avant l'investiture de Donald Trump, et c'est quasiment toute la planète qui retient son souffle, tant le président américain a menacé et tempêté pendant sa campagne. Les pays d'Amérique latine ne font pas exception, notamment pas le Venezuela, à qui Donald Trump avait imposé une ligne très dure pendant son premier mandat. Il retrouvera le même président, Nicolas Maduro, récemment investi, lui, d'un troisième mandat, malgré des chiffres montrant qu'il a vraisemblablement perdu l'élection au profit de l'opposition. Alors, il y a quelques années, cela avait été un argument pour Donald Trump qui appelait carrément à le renverser. Et nous allons voir avec notre invité ce qui peut se passer cette fois-ci. Bonjour Thomas Posado.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en civilisation latino-américaine contemporaine à l'université de Rouen-Normandie. Cette fois encore donc, Nicolas Maduro est contesté. Son rival à la présidentielle assure qu'il a gagné. Est-ce que vous pensez que l'administration Trump pourrait appuyer Edmundo González Urrutia de la même manière qu'elle l'avait fait à l'époque avec Juan Guaido en mettant en avant la démocratie ?
Donald Trump s'est déjà exprimé sur le cas du Venezuela. Le précédent Guaido a été un échec reconnu par l'ensemble des chancelleries occidentales, y compris par l'opposition vénézuélienne elle-même. Ce qu'on pressent, d'après les premières déclarations de Donald Trump, ce serait de mettre en avant la question migratoire pour menacer des sanctions et pour faire un chantage à une déportation massive de migrants vénézuéliens présents sur le sol états-unien. En échange du maintien de l'allègement des sanctions qu'a établi Joe Biden. On reste pour l'instant sur des suppositions, mais les Vénézuéliens sont devenus la première nationalité aux frontières des États-Unis et sachant le poids de la question migratoire dans l'agenda de Donald Trump, il est possible qu'il s'en sert pour faire un chantage comme il va le faire à l'égard du Mexique et de l'Amérique centrale.
Il faut dire que la crise là, qui touche le Venezuela à cause notamment des sanctions américaines, a poussé ces dernières années près de 8 millions de personnes à fuir. C'est un quart de la population. Et vous nous l'avez dit, une partie est installée aux États-Unis puisqu'ils sont devenus la première nationalité à arriver dans le pays. Aujourd'hui, Caracas refuse d'accueillir les migrants qui sont expulsés par l'administration américaine. Ça pourrait changer selon vous ?
Je ne sais pas ce que va accepter Nicolas Maduro. Enfin, les premières déclarations de Donald Trump laissent présager un chantage qui se fasse sur ce biais-là et qui pourrait laisser entendre un règlement Trump-Maduro aux dépens des migrants vénézuéliens. C'est pas du tout sûr que Nicolas Maduro accepte cela, et sans doute que cela se fera au prix d'un bras de fer, au prix de négociations sans doute assez tendues. C'est ce qu'on peut pressentir pour l'instant des premières déclarations de Donald Trump. C'est possible aussi qu'il veuille maintenir cette politique très offensive qu'il avait pendant son premier mandat. Et qui maintient des sanctions, quelle que soit l'issue des négociations sur la question migratoire.
En tout cas, on a l'impression qu'en ça, Donald Trump est poussé par un certain nombre de chefs d'entreprise, dont le mot d'ordre avait été repris il y a quelques semaines par le Wall Street Journal, plus de pétrole, moins de migrants.
Exactement. C'est plutôt la tendance qui semble advenir. Enfin, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des négociations ont été mises en œuvre par l'administration Biden avec le gouvernement de Nicolas Maduro. Et désormais, le Venezuela exporte entre 200 000 et 300 000 barils de pétrole chaque jour aux États-Unis, en faisant le deuxième client derrière la Chine. Si on sait, le Venezuela est un pays très latino-américain des années 2020. Est-ce que ce commerce va se poursuivre ? C'est l'enjeu de cela. Mais les États-Unis ne sont pas dépendants du pétrole vénézuélien. Maintenant, développer le pétrole vénézuélien a permis de peser à la baisse sur le prix du baril, dont on sait qu'il a des conséquences sur l'économie américaine.
Nicolas Maduro, en tout cas, lui-même parle de nouveaux départs. Est-ce que, selon vous, il y a des informations qui lui permettent d'y croire ? Est-ce que des contacts ont été pris déjà entre les deux présidences ?
Je pense qu'il y a un effet un peu performatif dans les paroles de Nicolas Maduro. Dès l'élection de Trump, il a essayé de le saluer, il essaye d'amadouer Donald Trump, qu'on confond beaucoup de chefs de l'État, avec un succès relativement limité à l'heure actuelle. Tout ce qu'on peut pressentir aujourd'hui, c'est que les nominations de Trump sont des personnes extrêmement hostiles au gouvernement de Nicolas Maduro.
Mais pour l'instant, c'est plutôt les partisans de la ligne dure.
Exactement. Après, on sait dans le fonctionnement de Donald Trump que ces personnes ont assez peu d'autonomie et que Donald Trump est quelqu'un d'imprévisible et un retournement du type de celui qui avait été fait avec la Corée du Nord pendant son premier mandat est possible. Donc, Donald Trump prend le contre-pied de toutes les personnes qu'il a nommées dans son administration pour décider lui-même d'une politique plus conciliante. C'est possible. Et d'autant plus qu'il n'a pas besoin de l'électorat anti Maduro de Floride pour une possible réélection, puisqu'il ne peut plus être réélu. Donc il est dégagé de cette obligation-là. C'est sur ces aspects qui restent des incertitudes. Maintenant, c'est vrai que autant la nomination de Marco Rubio comme secrétaire d'État, ou de Mauricio Claver Carón, ou des différentes personnes qui ont été nommées dans son administration sont pour l'instant le signe d'un durcissement du dialogue avec le Venezuela.
Est-ce que tout ça pourrait s'inscrire aussi dans une politique internationale plus large, avec notamment comme objectif de ne pas laisser le champ libre à la Chine et à la Russie, qui sont des soutiens de Nicolas Maduro? Est-ce que, par exemple, les dernières années là, d'absence américaine ont profité à Moscou et à Pékin?
Oui, en particulier au Venezuela, hein. Enfin, jusqu'en 2018, jusqu'aux sanctions états-uniennes les plus dures à l'encontre du Venezuela, les États-Unis étaient le premier fournisseur et le premier client du Venezuela. Ces sanctions ont brutalement offert le Venezuela à la Chine et à la Russie. Si Donald Trump considère que la priorité est l'affrontement avec la Russie et la Chine, il pourrait reconsidérer sa position. On voit aussi d'une certaine dispersion de Donald Trump sur beaucoup de sujets internationaux, où il ne pourra sans doute pas maintenir des pressions aussi maximales à l'égard d'autant de pays qu'il a pu menacer avant même son investiture. Mais c'est vrai que les sanctions établies par Donald Trump durant son premier mandat ont renforcé ce qui était à l'époque juste des affinités géopolitiques et qui sont devenues des liens économiques forts avec la Chine, qui est désormais le premier client du pétrole vénézuélien.
Merci Thomas Posado, maître de conférence en civilisation latino-américaine contemporaine à l'université de Rouen-Normandie. Merci d'avoir été avec nous. On se prépare aussi au retour de Donald Trump au Mexique voisin. A priori, les relations entre les deux pays sont telles que leurs dirigeants n'ont pas vraiment d'autre choix que de s'entendre, de collaborer au moins sur certains dossiers. Mais ça n'a pas empêché le président américain de menacer le Mexique comme le Canada de droits de douane considérables. Gwendolina Duval, vous êtes notre correspondante à Mexico. Quelle a été la réaction des autorités? Comment est-ce qu'elles anticipent le retour au pouvoir de Donald Trump?
Le Mexique veut avoir des chiffres et des projets à mettre sur la table lors des négociations avec les équipes de Donald Trump. Le but est de prendre les devants sur les sujets sensibles pour anticiper les volontés de la nouvelle présidence. Par exemple, Donald Trump veut plus d'action concernant la lutte anti-drogue. Eh bien, le Mexique redouble d'efforts ces derniers mois et les autorités ont saisi plus de 60 tonnes de stupéfiants et arrêté au moins 7000 personnes liées au trafic. Trump critique la relation commerciale entre la Chine et le Mexique, alors les autorités mexicaines réagissent en renforçant leurs services de douane. Elles font des saisies de produits chinois entrés illégalement et ferment des points de vente symboliques dans la capitale Mexico. Le Mexique veut évidemment éviter l'instauration de taxes sur les produits mexicains. Si 25% de frais de douane étaient instaurés, cela aurait un impact énorme sur les industries automobiles et électroniques, sans parler des secteurs des fruits et autres produits alimentaires. Mais Marcelo Ebrard, le ministre mexicain, se veut rassurant et met en avant l'interdépendance de chacun, premier partenaire commercial de l'autre.
On va avoir besoin l'un de l'autre et nous allons travailler ensemble. On a déjà vécu des situations avec des frais de douane, des révisions de l'accord de libre-échange. On est liés, comme dans un mariage.
Marcelo Ebrard, ministre mexicain de l'économie. Gwendolina, sur le sujet de la migration en particulier, le Mexique est dans le collimateur du nouveau président américain.
Absolument, c'est bien clair. Trump veut frapper fort. Il promet de fermer la frontière et d'organiser des expulsions massives. Alors, les 11 millions de migrants mexicains présents aux États-Unis sont évidemment inquiets. Le gouvernement mexicain a alors lancé un programme de protection à destination de ses citoyens de l'autre côté de la frontière, avec un renforcement des équipes consulaires et la création d'une application avec un bouton d'urgence pour ceux qui se sentent menacés. Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique.
Nous menons cette campagne aux États-Unis à travers les consulats pour que les Mexicains connaissent leurs droits et qu'en cas de détention, ils puissent appeler les consulats et recevoir toute l'aide juridique et légale nécessaire.
Ensuite, le Mexique est aussi un lieu de passage et fait beaucoup d'efforts depuis un an pour jouer le rôle de deuxième frontière en empêchant que les migrants qui traversent son territoire n'arrivent jusqu'au nord. Les flux de personnes arrêtées par la migration américaine ont effectivement diminué de 70% et ça, le Mexique le rappelle à son voisin.
En fin de compte, qu'est-ce qu'on sait de la relation qu'auront les deux pays une fois que Donald Trump sera au pouvoir? Est-ce qu'on s'attend à des échanges tendus?
On sait que lancer des menaces, c'est une manière de faire du prochain président américain. C'est une manière de tester ses interlocuteurs et gagner du terrain lors des négociations. La façon dont répond le Mexique pendant cette période de transition est une tentative de poser des limites. Par exemple, sur le thème de la sécurité, la menace de Trump consiste à déclarer les cartels mexicains comme des groupes terroristes. C'est un scénario que le Mexique veut à tout prix éviter. car ça poserait alors la question d'une intervention américaine sur le territoire mexicain. Là-dessus, la présidente Claudia Sheinbaum répond avec fermeté.
Nous, on s'occupe de ce qu'il se passe au Mexique et on va collaborer. Mais nous ne serons pas des subordonnés et nous n'accepterons pas l'ingérence. C'est notre vision et c'est ainsi que ça va se passer.
Finalement, on est dans une situation qu'on a déjà connue hein, par le passé. Lors du premier mandat de Trump, il avait déjà lancé des menaces de taxes et autres mesures pour contenir la migration. Et finalement, les deux pays avaient fini par négocier un accord à la frontière du Sud. On peut donc penser que cette fois-ci également, on verra se jouer les mêmes dynamiques.
Gwendolina Duval, correspondante de RFI au Mexique. Dans l'actualité du continent également, le Nicaragua, où des milliers de policiers volontaires ont commencé à prêter serment cette semaine pour ensuite appuyer les forces de sécurité, comme le veut la réforme de la constitution du président Ortega, mise en place il y a quelques mois. Mais l'opposition en exil et les organisations de défense des droits de l'homme s'en inquiètent. Elles dénoncent une légalisation des forces paramilitaires. On aura l'occasion d'y revenir dans nos prochains journaux sur RFI. Et puis il y a cette annonce du président colombien. Gustavo Petro suspend les négociations de paix avec la guérilla de l'ELN, conséquence d'une journée de violence ayant causé la mort d'une trentaine de personnes à la frontière avec le Venezuela.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Un mot encore du continent et de la presse américaine qui rend hommage à l'un des plus grands cinéastes américains. Si, comme moi, vous avez des frissons en entendant ce générique, vous faites peut-être partie de ceux qui ont été touchés par la disparition de David Lynch, réalisateur de la série Twin Peaks, dont on entend le thème en ce moment, mais aussi de films aussi célèbres qu'étranges et nébuleux comme Mulholland Drive, Blue Velvet, Elephant Man ou Dune. Il avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 90 pour le film Sailor and Lula. Il était si visionnaire, si audacieux, écrit le magazine Variety, qu'il était devenu difficile d'imaginer le monde sans lui. Le journal vante l'avant-gardisme de son cerveau que David Lynch avait laissé s'épanouir dans une esthétique ayant retourné les tripes d'Hollywood. À l'inverse de ses films, ajoute le Los Angeles Times, le charme désarmant de David Lynch est une œuvre d'art à part entière.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, les habitants de l'île de Saint-Martin appelés à marcher ce week-end pour dire non à la violence.
Trois homicides par arme à feu depuis le début de l'année. Inquiet, on le serait à moins, le président de la collectivité appelle donc la population à descendre dans la rue demain samedi. Correspondance pour la première Guadeloupe, Hervé Pédurand.
La série de vols à main armée de ces derniers jours, et en particulier l'agression d'un touriste américain dans le quartier très touristique de Grand Case, ont provoqué une onde de choc à Saint-Martin. Depuis, les autorités multiplient les initiatives pour contrer cette vague de violence et rassurer la population et la clientèle du principal moteur de l'économie locale, le tourisme. Le président de la collectivité souhaite impliquer l'ensemble de l'île à travers une marche de protestation ce week-end. Louis Mussington, président de la collectivité de Saint-Martin.
J'appelle un sursaut démocratique, mais aussi un sursaut moral.
La gendarmerie annonce des moyens techniques et humains supplémentaires. Plusieurs arrestations, dont celle de l'auteur du coup de feu contre le touriste, ont déjà eu lieu. Mais au-delà, le procureur de la République de Basse-Terre s'inquiète d'une délinquance plus aguerrie qui a franchi un cap. Xavier Sicot.
Nous avons des territoires voisins qui nous font penser que ces armes circulent beaucoup sur la Caraïbe, et notamment en venant des États-Unis. Les constats qu'on a fait dernièrement, notamment sur les armes de guerre qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, cette utilisation nous inquiète sur le circuit qui est employé.
L'an dernier, 123 vols à main armée ont été recensés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, quasiment deux fois plus que l'année précédente.
En bref, le président de la collectivité territoriale de la Martinique soutient l'idée d'une répartition plus équilibrée des fonds européens dans l'agriculture martiniquaise, un peu moins pour le sucre, le rhum et la banane, un peu plus pour les autres agriculteurs. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Bon week-end, Anne, à lundi.
Merci Benoît Ferrand et à lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Aujourd'hui encore, cette émission était réalisée par Vincent Biteau. Et vous restez sur RFI, bien sûr. Dans quelques secondes, Littérature sans frontières avec Catherine Fruchon-Toussaint et son invité, l'écrivain français Jean Echenoz. Très bonne journée à tous.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
L'essentiel des gaz à effet de serre qui créent le changement climatique provient de la combustion des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon. Mais peut-on s'en passer ? Nous irons voir comment l'île de la Réunion fait face à cet enjeu.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.